En effet, si vous écoutez Sud Radio à Nice sur le 97.9, vous avez jusqu'à ce soir pour essayer 25 véhicules du futur. Bonjour à vous, Jean-Michel Papola.
Bonjour.
Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général du Smart Mobility Show. C'est organisé à Nice par la mairie. C'est Quai des États-Unis pour ceux qui sont sur place. C'est un centre d'essai, en fait, de véhicules électriques. Citroën, BMW, Audi, DS, Jaguar, Tesla, Porsche, beaucoup d'autres marques.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Bienvenue.
C'est un centre d'essai, effectivement, mais ce n'est pas que ça. Le Smart Mobility Show, en fait, c'est un événement qui a pour vocation de réunir tous les acteurs de l'écomobilité et de pouvoir proposer aux visiteurs et aux Niçois, en tout cas les personnes qui seront sur la promenade des Anglais aujourd'hui, de rencontrer tous les acteurs qui vont leur permettre de franchir le pas et d'aller vers l'électromobilité. Mmh. C'est-à-dire qu'on commence dans un parcours expérientiel par rencontrer les administrations, donc la mairie, par exemple, qui propose un certain nombre de solutions et de services qui permettent aux personnes d'utiliser des véhicules électriques. Et après, on enchaîne avec les organismes d'État, l'EDF, etc.
C'est ça. Et ensuite, vous avez aussi donc, les concepteurs de véhicules. Vous avez même permis à des Niçois, vous permettez aussi à des Niçois d'essayer ces véhicules. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux véhicules électriques qu'on connaît aujourd'hui ?
Alors, ce sont des véhicules actuels, des véhicules commercialisés et des véhicules d'aujourd'hui. Néanmoins, l'électromobilité change à vitesse grand V. Les choses évoluent très très vite, puisqu'il y a ne serait-ce que 3-4 ans, on était sur des autonomies entre 160 et 200 km. Aujourd'hui, tous les véhicules qui sortent sont bien au-delà de 400 km d'autonomie, et on peut monter au-delà de 600.
Donc, même en roulant vite.
Alors,
un peu moins peut-être, mais...
On n'a pas le droit de rouler vite sur les routes françaises.
Non, ça c'est vrai. On va se rattraper comme ça. Vous avez raison. Mais vous le dites vous-même d'ailleurs, ces véhicules électriques, cette écomobilité, comme vous dites, changent à tous vitesse. Vous avez aussi permis au maire de Nice, Christian Estrosi, de prendre la place du passager sur la promenade des Anglais dans un prototype qui a hydrogène, celui-là.
C'est ça. Donc l'Automobile Club de l'Ouest, qui est l'organisateur des 24 heures du Mans, a développé un programme qui s'appelle Mission H24, qui a pour objectif dans 3 ans de faire courir un sport prototype 100% hydrogène aux 24 heures du Mans. Mmh. Et ça ne sera pas une course de démonstration puisque Mission H24 sera en mesure de l'emporter si ses performances sportives sont au rendez-vous, donc c'est une réalité. Et effectivement, Monsieur Estrosi nous a fait l'honneur de venir faire un tour
sur la promenade des Anglais.
Sur la promenade, exactement hier après-midi.
Pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, on croise tous maintenant. C'est quand même assez démocratisé des véhicules électriques classiques. C'est quoi la différence avec l'hydrogène, pas forcément par la conception, mais dans la manière de le conduire?
Alors, entre un véhicule de tourisme hydrogène qui existent. Alors, il y en a beaucoup moins que des véhicules électriques.
C'est pour ça que je vous pose la question. Justement, on les connaît beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que l'hydrogène apporte de plus que l'électrique n'apportait peut-être pas forcément?
Alors, l'hydrogène apporte principalement pour les transports lourds une autonomie forte, puisqu'on peut aller jusqu'à 1000 km d'autonomie sur un poids lourd hydrogène. Ouais. Et comme les stations de recharge sont plus complexes à mettre en œuvre, c'est un type de propulsion qui va se démocratiser et qui est une réalité actuelle pour l'instant sur les transports lourds.
Pour l'instant, sur les camions, effectivement, vous avez plusieurs partenaires. Par exemple, vous pourriez citer Renault Trucks, qui fait partie du Smart Mobility Show. Il y a aussi des tables rondes que vous organisez, justement, pour les Niçois qui viennent se renseigner. C'est quoi les leçons que vous pouvez d'ores et déjà en tirer?
Alors, les leçons que l'on en tire, elles sont celles d'un manque de connexion entre ces différentes sociétés acteurs majeurs de l'électro, d'électromobilité.
C'est-à-dire entre les concepteurs, entre les distributeurs d'énergie aussi, c'est ça ?
Les distributeurs d'énergie, les associations d'aide, les collectivités locales.
Ouais. Il faut que tout le monde se parle. Ça, c'est ce que vous retenez, quoi.
Ces gens-là se parlent peu, parce que dans des univers totalement différents, quand vous êtes, par exemple, Vinci, vous construisez
des autoroutes
de route. Hein. Quand vous êtes Enedis, vous faites passer des câbles.
Ouais.
Pour parler à une marque comme Renault ou Peugeot, vous n'êtes pas du tout dans le même monde.
C'est ça.
Et pourtant, les deux font que nous, particuliers, nous pouvons rouler dans une voiture électrique.
Renault parlera à EDF demain, parle déjà à EDF, comme Renault parlait à Elf ou Total jadis. Merci beaucoup, Jean-Michel Papola.
On rappelle
que les Niçois, ou alors les Niçois d'adoption, de passage ce soir, ont jusqu'à ce soir pour se rendre au Smart Mobility Show, que c'est gratuit aussi.
Voilà, ils sont les bienvenus. Entrée au 99 quai des États-Unis ou fin de promenade des Anglais.
C'est ça.
Une entrée gratuite. Toujours 25 véhicules disponibles à l'essai gratuitement. Et on vous attend très nombreux aujourd'hui jusqu'à la clôture à 19h ce soir.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jean-Michel Papola, je le rappelle, directeur général du Smart Mobility Show à Nice. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h14. h23 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. L'équipe de France essaye de relever la tête 3 mois après son euro manqué. France-Espagne, c'est ce soir à 20h45. Finale de Ligue des Nations que vous pourrez vivre sur Sud Radio Sport avec François Triot et Alexandre Priam. Pardonnez-moi, je m'en étouffe. Vous voyez comme j'aime le sport. Bonjour à vous, cher Yves Guémour.
Bonjour, tout le
monde. Bienvenue à vous sur Sud Radio, vous êtes journaliste. SoFoot, parlons d'abord de la compétition que la France n'a encore jamais remportée. C'est la deuxième édition seulement de la Ligue des Nations. Quelle valeur a-t-elle ?
Elle prend de plus en plus d'importance, on s'en est rendu compte avec les matchs de cette semaine. C'est un peu passé inaperçu la première édition, parce qu'on était dans la période d'avant Covid et puis les compétitions n'avaient pas repris. La France avait été pas mal à la première Ligue des Nations, mais bon, comme c'était le début, ils se sont fait surprendre sur un match aux Pays-Bas, donc ils n'ont pas pu accéder au carré final. Là, ils y ont accédé, et il y a 4 représentants assez prestigieux, Espagne, ouais. Italie, Belgique et France, et on a eu 2 très grands matchs.
C'est ça.
Donc tout le monde attend les matchs d'aujourd'hui et ça fait envie.
Exactement. On rappelle que la France a réussi à renverser la vapeur face à la Belgique 3-2 après avoir été menée 2-0. C'était jeudi soir en demi-finale. De son côté, l'Espagne est venue à bout de la championne d'Europe italienne, des champions d'Europe italiens, 2-1. Est-ce qu'il y a un favori ce soir ?
Est-ce qu'il y a un favori ? Non, c'est dur à dire parce que c'est deux équipes qui se valent. À mon avis, on est encore sur la continuité de l'Euro. Et rappelez-vous, l'Euro, c'est beaucoup de matchs qui se finissent aux prolongations, aux tirs au but.
Ouais.
Ça va être dur. Sur la dynamique. Dynamique, c'est plutôt l'Espagne parce que ils avaient déjà failli battre l'Italie à l'Euro. Bon, ils avaient perdu aux tirs au but. Là, ils ont vraiment confirmé, même s'ils ont joué à 11 contre 10, il y avait une supériorité assez nette. Et l'équipe de France, sur son match, elle est fabuleuse en deuxième mi-temps, mais première mi-temps, elle est en perdition. Et surtout, c'est une équipe de France qui prend beaucoup de buts. Et pour les gens qui nous écoutent, on se souvient qu'à la Coupe du Monde 2018, la grosse force de l'équipe de France, c'était sa solidité défensive, et elle l'a perdue en partie. Donc,
c'est drôle parce qu'en 2018, avant qu'on soit champion du monde, on avait tendance à se plaindre de ne pas prendre beaucoup de buts et d'en marquer assez peu. Et maintenant qu'on commence à en encaisser, on commence à avoir peur.
Oui, parce qu'en fait, l'équipe de France était obligée d'évoluer. Quand elle a gagné la Coupe du Monde sur une grosse base défensive, même si elle a marqué beaucoup de buts, on l'a oublié. Ce système de jeu ne pouvait pas faire qu'on continue de gagner parce que d'abord les joueurs au bout d'un moment ils ont envie de prendre des risques, c'est normal. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que l'équipe de France maintenant elle penche plus vers l'avant et elle se déséquilibre donc elle prend des risques.
C'est ça.
Tant qu'il marque un but de plus que l'adversaire, ça nous donne des matchs comme on a eu, ça va passer. Mais je rappelle à l'Euro c'est 6 buts encaissés en 4 matchs. c'est pas des parcours de champions en général.
Non, c'est
donc,
ça.
Donc voilà, déterminer un favori, la France a des faiblesses.
Donc pour vous, l'Espagne est légèrement favorite.
Légèrement, mais je sais que l'équipe de France va répondre. Donc, ouais,
c'est ça. Justement, ouais, parlons d'une petite faiblesse quand même de l'équipe de France. Elle va se présenter sans Adrien Rabiot, son milieu de terrain qui est positif au Covid. On rappelle que le champion du monde, Kanté, n'est pas là non plus. Il n'était même pas du voyage. Est-ce que c'est un gros handicap ?
Alors, c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est pas non plus une mauvaise nouvelle dans le sens où vraisemblablement c'est Tchouaméni qui va prendre sa place.
Oui.
Et Tchouaméni, il faut dire ce qu'il y a, était beaucoup plus performant que Rabiot contre la Belgique.
On l'a vu.
Voilà, Rabiot, je l'enterre pas, attention. Mais Tchouaméni est plus dynamique, il a beaucoup plus de choses à prouver. Il arrive chez les grands, chez les bleus. Donc évidemment c'est un match où on va l'attendre et il est assez efficace justement pour aller chercher des ballons, pour embêter un peu le jeu des Espagnols, qui vraisemblablement vont jouer, ouais, leur jeu, c'est-à-dire la possession, nous priver de ballons.
C'est ça.
Et je pense que Tchouaméni, même si Rabiot n'est pas mauvais dans ce domaine, mais je pense qu'il va faire
utile,
du bien. Ouais, donc voilà, pas une bonne nouvelle, mais pas une mauvaise nouvelle non plus.
En tout cas, si on gagne ce soir, on pourra dire que les problèmes de l'Euro sont derrière les Bleus ou pas encore ?
Pour moi, ils n'ont pas fait un mauvais Euro. C'était une immense déception, une désillusion, mais il y avait des belles choses. Gagner la Ligue des Nations, quand on voit le niveau de la compétition et surtout le fait que tout le monde les joue à fond, si l'équipe de France gagne, disons qu'elle va se rassurer, elle va se mettre bien, je dirais, pour mieux aborder la Coupe du Monde. Vaut mieux aborder la Coupe du Monde avec, entre guillemets, un succès à la Ligue des Nations, même si c'est pas acquis.
C'est ça.
Plutôt partir avec les vieux démons et les fantômes de l'Euro.
D'autant plus qu'on adore tirer des leçons hâtives sur cette équipe rongée par ses égos. Donc autant qu'on s'épargne ça. Merci beaucoup, cher Yves Guémour.
Merci beaucoup.
Journaliste à SoFoot d'ailleurs. Un match que vous pourrez suivre sur SoFoot, sur le site internet de SoFoot qui sera commenté en direct. Vous pourrez aussi le vivre sur Sud Radio à partir de 20h45 dans Sud Radio Sport avec Alexandre Priam et François Triot. Restez avec nous les amis sur Sud Radio dans quelques minutes, dans un quart d'heure même plus précisément. Le débat de la semaine, faut-il rappeler l'église à l'ordre ? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300, on vous donnera la parole juste après Tous au Jardin. On se retrouve dans quelques instants pour les informations. Hashtag MeToo Théâtre. Tout est parti d'un tweet d'une comédienne qui révèle sur Twitter « J'ai été violée par un comédien de la Comédie Française pendant le premier confinement, pendant que je faisais un malaise. Il est toujours membre de la Comédie Française malgré ma plainte. » Deux jours plus tard, des centaines de témoignages et d'agressions affluent sur les réseaux sociaux sous ce hashtag MeToo Théâtre. Bonjour à vous Claire Sercombe.
Bonjour.
Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes pilote du collectif Femmes Mixité à la Fédération CGT du Spectacle. Des témoignages qui se comptent par dizaines, par centaines, qui vont du regard, de la remarque jusqu'au crime, puisqu'on rappelle que le viol est un crime. Mais je peux aussi citer par exemple cette comédienne qui nous révèle qu'elle a porté plainte pour viol et que son agresseur est toujours en poste. Une autre qui raconte qu'elle a été embrassée de force. Elle a repoussé l'homme et il se défend et il dit « Désolé, je croyais que tu étais comédienne. » Il y en a combien dans ce genre en tout, Claire Sercombe ?
C'est hélas difficile d'évaluer puisqu'il n'y a pas d'observatoire des violences sexistes et sexuelles perpétrées dans le domaine du spectacle. Nous, ce qu'on sait, c'est pour connaître énormément de comédiennes, travailler avec elles dans le monde syndical, c'est que moi, à titre personnel, je ne connais pas une comédienne qui n'ait pas été victime à un moment dans sa carrière d'agissements sexistes, que ça soit, voire plus, que ça soit dans son cursus de formation ou dans sa carrière, pas une seule.
Alors, quelle est la frontière d'abord entre agissements sexistes et le plus grave, ce dont on parlait à l'instant, qui est quand même une accusation de viol, puisqu'on passe du crime à la remarque désobligeante. Il y a quand même une frontière entre les deux ?
Oui, bien sûr. Tout ça, c'est défini en fait à la fois par le Code du travail et par le Code pénal. L'agissement sexiste, c'est quelque chose de récent puisque ça a été intégré en 2016 dans le Code du travail. Et en fait, ça vient interdire les remarques sexistes qui visent en fait à, ce sont des propos humiliants à l'encontre des femmes. Ensuite, vous avez le harcèlement sexuel dont la loi a été renforcée récemment. Donc là, c'est, je vous schématise, c'est tenter en gros d'obtenir des faveurs entre guillemets sexuelles d'une personne dans un contexte professionnel pour ce qui est du code du travail. Mmh. Ensuite, vous avez l'agression sexuelle.
Tenter lourdement pour le harcèlement, parce que après tout, enfin, il y a quand même beaucoup de collègues qui peuvent avoir des relations sexuelles à l'intérieur de leur entreprise.
Alors, toute la frontière se situe autour du consentement.
Voilà, exactement, on est bien d'accord.
Pas forcément lourdement, puisque justement les aménagements récents faits dans les textes de loi disposent qu'il suffit d'une demande pour que ça soit considéré comme étant du harcèlement sexuel, puisque ce n'est pas forcément la réitération qui peut être traumatisante en fait chez la personne qui est visée.
Donc voilà, c'est plus la manière de la demande, la façon de le demander qui est à étudier par les juges, par la justice du travail. On parle de ces témoignages de comédiennes. Une autre qui nous dit « Nous sommes victimes du cliché selon lequel le corps d'une actrice appartient à son metteur en scène. » C'est un cliché qui existe hein ?
Oui, c'est un cliché qui est hélas très répandu. Il faut savoir que on apprend dans les écoles d'art dramatique aux comédiennes à être désirables aux yeux du metteur en scène. C'est-à-dire qu'on leur explique que si elles ne sont pas désirables, ça va être compliqué en fait de faire carrière. Et le désir, qui peut être professionnel, mais qui là est assez tendancieux, peut entraîner ensuite des situations effectivement d'emprise vis-à-vis du metteur en scène, et ça peut conduire à des situations de violence. On se retrouve dans les affaires qui sont remontés à la surface récemment. Je pense notamment à l'affaire Michel Didim, qui la présomption d'innocence s'applique, je le rappelle, mais on est vraiment dans le schéma du Pygmalion avec sa muse. Mmh. En fait, il va promettre monts et merveilles, que c'est la plus belle, la plus formidable comédienne qu'il ait jamais rencontrée. Ce sont souvent des personnes très jeunes qui n'ont pas de réseau et une situation d'emprise se crée qui entraîne une situation de violence. Ouais. Et beaucoup de comédiennes soit serrent les dents et tentent bien que mal de faire carrière. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui décrochent.
Il y en a qui en restent traumatisés. Ce sont des témoignages qui, par moments, rappellent ceux qu'on avait découverts dans les sports féminins, notamment dans le patinage, parfois, certaines relations entre des jeunes athlètes et leurs entraîneurs. C'est effectivement assez désespérant quand vous les lisez ou quand vous les entendez. Merci beaucoup, Claire Sercombe, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la pilote du collectif Femmes Mixité à la Fédération CGT du spectacle. Restez avec nous sur Sud Radio. Il est 9h16. Dans quelques instants, on parle politique avec la candidate de la semaine. Marine Le Pen est-elle prise au piège derrière Éric Zemmour et Emmanuel Macron ? On en parle avec notre invité dans quelques instants. À tout de suite.